Décryptage, Nathalie Amar.
Bonsoir à tous. Décryptage s'arrête ce soir en Iran. Dans un mois, tout juste, le président Hassan Rouhani remettra son mandat en jeu. En 2013, son élection avait mis fin à 8 années d'une présidence Ahmadinejad désastreuse pour l'économie et pour l'image du pays à l'international. Et c'est justement la principale réussite d'Hassan Rouhani, avoir conclu en juillet 2015 avec les puissances occidentales un accord mettant fin au conflit sur le nucléaire. Aujourd'hui, le contexte a changé. L'élection de Donald Trump ouvre une période lourde d'incertitude. Hassan Rouhani, d'ailleurs, a lancé un avertissement aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche.
Aux États-Unis, certaines personnes inexpérimentées ont pris le pouvoir. Elles doivent savoir. Il faut parler au peuple iranien avec respect. Le peuple iranien donnera une réponse ferme à toute menace.
Hassan Rouhani s'exprimant en février dernier à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. En mai prochain, il aura face à lui au moins un conservateur en la personne d'Ebrahim Raisi. Peut-être plus si la candidature surprise de Mahmoud Ahmadinejad est validée. Alors de quel bilan le président peut-il se prévaloir alors qu'il brigue un second mandat? Son premier mandat a-t-il tenu toutes ses promesses? On en parle avec nos invités. Bonsoir Azadeh Kian.
Bonsoir.
Et merci d'être à nouveau avec nous dans Décryptage, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 7 Diderot, chercheur associé au CNRS. Nous sommes en ligne également avec Clément Terme. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques. Azadeh Kian, qu'est-ce qui a changé tout d'abord en Iran depuis l'élection de Rouhani? Quelque chose a-t-il changé?
Disons que oui, c'est-à-dire que d'une part, l'image de l'Iran à l'étranger a beaucoup changé, bien sûr. Au niveau de l'économie, même si il n'y a pas eu encore beaucoup d'emplois créés, que le taux de chômage reste élevé, le taux d'inflation a été ramené à pratiquement 15%. Donc contrôlé, alors que sous Ahmadinejad, il était de 40%. Le président Rouhani a réussi quand même à faire investir d'environ 20 milliards de dollars dans l'économie iranienne. Les industriels français, allemands, italiens et autres, notamment européens, qui avaient été largement absents à partir de 2012, sont rentrés. Les PME françaises, par exemple, sont de nouveau actives. Citroën, Renault le sont également. Et total, bon, mais les sanctions américaines, comme vous le savez, continuent puisque ce ne sont que des sanctions internationales qui ont été levées en janvier 2016 suite à l'accord sur le nucléaire. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que quand même le ministre américain des Affaires étrangères a reconnu que l'Iran respectait les termes de ce contrat.
Et Donald Trump demande aux agences fédérales aujourd'hui d'examiner la levée des sanctions contre l'Iran. Lui qui disait à l'époque de l'accord sur le nucléaire, ou en tout cas durant la campagne, qu'il allait déchirer cet accord sur le nucléaire.
Absolument. Donc tout ça, je pense, ce sont des résultats effectivement positifs de l'arrivée au pouvoir de Rouhani. Au niveau de la société, même si les exécutions, notamment pour les trafiquants de drogue, continuent, mais on constate que par exemple le nombre des exécutions a aussi baissé, même si ce n'est pas Rouhani qui préside le pouvoir judiciaire. Et la société a commencé en 2013 à avoir de nouveau de l'espoir. Et aujourd'hui, avec les autres candidats conservateurs et ultra à la présidentielle, de nouveau, je pense que les changements, même s'ils ne sont pas très perceptibles, mais quand même des changements qu'il y a eu depuis l'élection de Rouhani, feront qu'une partie de son électorat se mobilisera de nouveau pour le faire réélire, hein, puisqu'il y aura des conséquences très importantes à la fois au niveau intérieur, mais aussi régional et international.
Clément Terme, on se souvient qu'en 2009, il y avait eu cette révolution verte avortée, ce mouvement vert, en tout cas suite à la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Est-ce que la présidence de Hassan Rouhani a donné quelques gages à ceux qui manifestaient à ce moment-là, d'après vous? Est-ce qu'elle a fait progresser un tant soit peu les libertés?
En fait, je pense que le côté positif pour la société civile en Iran de l'élection du président Rouhani, c'est de desserrer un peu l'étau qui pèse, si vous voulez, sur la société iranienne. Maintenant, Azadeh l'a dit, le président iranien n'est pas en charge du pouvoir judiciaire. Donc il a peu d'influence sur ces aspects-là. Mais il y a quand même un décalage entre l'espoir suscité par l'accord parmi la population et la réalité des progrès de l'économie iranienne. Le chômage des jeunes reste à 30%, il y a seulement 700 000 créations d'emplois par an, alors qu'il y a 1,2 million de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Le taux de fuite de cerveau est l'un des plus élevés au monde, avec plus de 150 000 jeunes hautement diplômés qui quittent l'Iran chaque année. Donc si vous voulez, c'est le moins pire, le président Rouhani. Et dans cette configuration nouvelle avec l'arrivée du président Trump, il est un choix de stabilité et plus rassurant à la fois pour le système et je pense pour la population qui souhaiterait aller plus loin que le président Rouhani. Donc il a partiellement réalisé, si vous voulez, les aspirations du mouvement vert qui visait à une meilleure relation avec l'extérieur, détente et réforme à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès sur la paix, parce qu'il a évité la confrontation militaire. On se rappelle qu'à l'époque du président Ahmadinejad, il y avait des menaces d'intervention militaire américaine contre l'Iran. Le risque, c'est qu'avec le président Trump, il a annoncé la fin de la patience stratégique. C'est-à-dire que, comme dans le cas de la Corée du Nord, il a décidé que la marine américaine qui est ici dans le golfe Persique, qui rencontre très souvent des bateaux iraniens, n'aura plus la patience. Donc c'est un premier risque. Et le deuxième, c'est
qu'il y a une escalade. Mais comme souvent, Clément Terme, l'administration américaine donne des signaux un peu contradictoires. Il y a effectivement l'annonce de la fin de cette patience. Et puis aujourd'hui, ce qui peut paraître quand même comme une avancée, demander à l'administration d'évaluer les conséquences d'une levée plus importante des sanctions contre l'Iran.
En fait, c'est un examen pour savoir si la levée des sanctions du côté américain est pertinente. Donc c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que la victoire, c'est que le deal, l'accord sur le nucléaire, n'a pas été dénoncé par le secrétaire d'État américain. Mais par contre, il a demandé d'étudier s'il était pertinent pour la sécurité nationale des États-Unis de poursuivre la levée des sanctions, qui sont un contrat. C'est-à-dire que contractuellement, les États-Unis sont obligés, une fois qu'ils reconnaissent que l'Iran respecte l'accord, de leur côté, ils doivent poursuivre les exemptions, ce qu'on appelle des décrets du président américain, qui remplissent sa part du contrat. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le risque, c'est que, comme il y a des confrontations dans la région et que les alliés des États-Unis dans la région s'opposent très fortement à l'Iran, et notamment Israël, que cette administration soit plus sensible aux lobbies pro-israéliens et pro-saoudiens à Washington sur cette question iranienne.
Est-ce que l'intérêt des Américains ne serait pas aujourd'hui d'entrer dans ce mouvement de retour à l'investissement en Iran, comme nous le disait tout à l'heure Azadeh Khan? Est-ce qu'il n'y a pas, très prosaïquement pour les Américains, des parts de marché à prendre?
Oui, il y a notamment avec Boeing, il y a des milliers d'emplois qui dépendent du marché iranien. Mais il y a beaucoup d'idéologies. La question, c'était, est-ce que l'idéologie va se conformer avec les réalités? Donc là, il y a un premier pas positif en ce sens, puisqu'il avait annoncé qu'il allait déchirer l'accord et il ne le fait pas. Donc ça, on peut noter un pragmatisme. C'est contraire à l'idéologie. Mais il reste quand même un risque que, si vous voulez, les actions périphériques qui sont prises par les États-Unis aient des conséquences dans la relation avec l'Iran. Mais c'est clair que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, parce que les États-Unis ont comme ennemi prioritaire Daesh dans la région. Et il n'est pas possible de combattre en même temps les alliés de l'Iran, comme les Houthis ou le régime de Bachar al-Assad, et Daesh. Donc il faut avoir des priorités, même au niveau militaire, on le voit lors de la bataille de Mossoul. Mais là, il y a quand même du côté des Américains, avec l'administration Trump, un changement.
Est-ce que, Azadeh Khan, pour en revenir au volet économique de cette présidence, il ne faut pas laisser peut-être un peu plus de temps à cette levée des sanctions pour produire des effets sur le quotidien des Iraniens? On a vu le retour des investissements, on a vu la baisse de l'inflation, mais il y a encore un chômage très élevé. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt, finalement, pour consulter à nouveau les Iraniens?
Bien sûr, il faut laisser le temps aux investisseurs, laisser le temps aussi au gouvernement. Mais c'est vrai que l'élection de Rouhani et surtout l'accord sur le nucléaire avait suscité beaucoup d'espoir, beaucoup trop d'espoir, je dirais, parmi la population. Et donc, beaucoup de personnes iraniennes pensaient que à l'issue de cet accord, l'économie iranienne sortira de sa crise. Il y aurait des centaines et des centaines de milliers d'emplois créé. Or, effectivement, il constate que ça n'est pas le cas. À cela s'ajoute le fait que, entre-temps, le prix du pétrole a largement baissé, et donc ce qui fait que les caisses de l'État ne sont pas aussi remplies que sous Ahmadinejad, par exemple. Et là, la baisse importante aussi de budget de l'État, puisque plus de 86% de budget de l'État iranien dépend du pétrole. Quand le prix du pétrole baisse, effectivement, il y a une baisse sensible aussi dans le budget de l'État. Et donc, il y a un certain nombre aussi de, disons, politiques publiques qui dépendaient du pétrole, de l'argent de pétrole, qui ne peuvent plus continuer, bien sûr, comme avant, notamment en ce qui concerne ces politiques qui, par exemple, qui étaient sous forme d'aide ou des subventions aux populations démunies ou classe moyenne inférieure, si vous voulez. Il n'y a pas un jour où des ouvriers ne sont pas en grève parce qu'ils n'ont pas été payés. Il y a des usines qui ferment et les ouvriers qui restent sans salaire. Il y a tous ces problèmes effectivement sociaux qui continuent à exister sous Rouhani et qui sont liés à l'état effectivement de l'économie iranienne. L'Iran a besoin en moyenne de 200 milliards de dollars d'investissement par an. Or, aujourd'hui, on n'en est absolument pas là. Et on sait que c'est à cause des sanctions américaines que les grandes sociétés, y compris Total par exemple, réfléchissent deux fois avant d'aller investir en Iran parce qu'effectivement, ils ne veulent pas être sanctionnés par les États-Unis. Et donc, seuls les PME qui n'ont aucun rapport ou aucun investissement aux États-Unis
se lancent sur le marché iranien.
Et si vous regardez qui sont les entreprises françaises qui sont actives en Iran, c'est des petites et moyennes entreprises.
L'Iran à un mois tout juste de la présidentielle. Décryptage ce soir en compagnie de Clément Terme et d'Azadeh Khian. Alors à un mois du scrutin, on ne connaît pas encore la liste définitive des candidats. Elle ne sera validée par le Conseil des gardiens de la Constitution que le 27 avril, la semaine prochaine, si je ne m'abuse, parmi des dizaines de prétendants déclarés. Azadeh Khian, une candidature a semé le trou la semaine dernière, c'est celle de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président. Pourquoi, d'après vous, ce retour inopiné ?
Écoutez, moi, on sait que le guide avait demandé à Ahmadinejad de ne pas se présenter pour ne pas polariser l'élection. On sait aussi que Ahmadinejad, vers la fin de son mandat, il a commencé à manquer de respect, si vous voulez, au guide. Il a pris d'ailleurs ses distances avec le guide. Et de cette façon, les conservateurs ultra qui le soutenaient, y compris un certain nombre d'ayatollahs proches de Khamenei qui soutenaient Ahmadinejad, ont arrêté de le soutenir. Aujourd'hui, il revient, alors visiblement, il cherche peut-être un scénario à la Poutine, c'est-à-dire on sait qu'il a d'abord envoyé M. Barahi, son bras droit, à déclarer sa candidature et puis effectivement, de façon inopinée, il s'est présenté. Il sème le désordre dans la mesure où le conseil de surveillance ne peut pas valider sa candidature parce que aura du mal à valider sa candidature parce que le guide avait
même s'il a déjà exercé la fonction, il peut être recalé.
Non, mais même Rouhani doit de nouveau se faire qualifier. Mais comme le guide avait demandé expressément à Ahmadinejad de ne pas se présenter, il le fait. Ça pose problème au conseil de surveillance. En même temps, Barahi, son bras droit, a été déjà emprisonné pour abus de biens sociaux, donc il ne peut pas être validé. Et raison pour laquelle Ahmadinejad se présente, c'est aussi parce qu'il sait que Barahi ne sera jamais habilité.
Quels sont d'ailleurs rapidement les critères de validation d'une candidature? Il y a une grille très claire ou c'est le bon vouloir du pouvoir?
Non. C'est-à-dire que, bien évidemment, les candidats doivent avoir un minimum d'âge, être fidèles aux principes de la République islamique, ne pas être laïque, etc. Mais en même temps, après, le reste, c'est vraiment subjectif, puisque ce sont les 6 membres cléricaux de conseil des gardiens ou de conseil de surveillance qui habilitent ou refuse d'habiliter les candidats à l'élection. Et donc, ce qui fait que ça reste quand même très subjectif, tout ça. Mais c'est évident que la candidature d'Ahmadinejad a changé l'équilibre des rapports de force entre les conservateurs modérés qui soutiennent Rouhani et les réformistes d'un côté, et les conservateurs ultra, des soutiens de, par exemple, M. Raisi ou
Ibrahim Raisi, qui est le candidat conservateur officiel, entre guillemets, enfin qu'il était en tout cas avant que Mahmoud Ahmadinejad se lance dans la course. Clément Terme, Ibrahim Raisi, il chasse un peu sur les mêmes terres qu'Ahmadinejad, à savoir les classes les plus pauvres de la population. Il est à la tête d'une grande fondation caritative.
Je pense qu'il y a quand même des différences entre eux, parce qu'Ebrahim Raïssi, lui, fait partie du clergé, alors que Ahmadinejad, lui, est un laïc, au sens où il n'est pas lui-même un membre du clergé. Et Ahmadinejad, je pense, au cours de son deuxième mandat, entre 2005 et 2009, a dérivé un peu à l'extérieur des frontières de la République islamique, à la fois par ultranationalisme, si vous voulez, une sorte de front national iranien, et par messianisme. Donc il y avait quand même une variante nouvelle, et il a mis en cause le rôle des clercs à plusieurs reprises, et par démagogie. Donc je pense que le fond de commerce d'Ahmadinejad, c'est de se présenter comme anti-système, tout en servant le système. Mais cette fois, je pense que le système n'en veut plus, donc je partage l'analyse d'Azadeh, mais en même temps, le système a besoin qu'il y ait une grande participation en Iran. Donc c'est peu importe, si vous voulez, qui est le gagnant. Ce qui compte pour les institutions non élues de la République islamique, c'est que la participation soit très haute.
Qu'il y ait de l'enjeu et que les électeurs se mobilisent.
C'est ça, il faut créer une compétition. Il y a un mois, en Iran, tout le monde était sûr que Rouhani serait réélu. Aujourd'hui, avec cette première série de présentations de candidats, il y a déjà eu des surprises. Et donc, ceux qui, par exemple, pensaient s'abstenir du côté de Rouhani pourront peut-être se mobiliser par crainte, même s'ils sont déçus. On a dit que les classes les plus défavorisées sont déçues en Iran. Peut-être vont se mobiliser pour éviter de nouveau une stratégie d'auto-isolement du pays et de rejet, si vous voulez, d'une relation apaisée avec l'étranger.
Est-ce qu'on peut envisager à ce jour, Azadeh Kian, que la candidature de Hassan Rouhani ne soit même pas sélectionnée, ou ça semble...
Oh non, moi ça me semble improbable. En même temps, effectivement, si on regarde qui soutiennent M. Raïssi, parmi les soutiens de Raïssi se trouvent pas seulement un certain nombre de clercs proches du guide, mais aussi les gardiens de la Révolution, qui pour le moment, parmi les candidats en lice, se penchent plutôt vers M. Raïssi, tandis que les gardiens de la Révolution, qu'Ahmadinejad, souvenez-vous, a appelé en 2011 les frères contrebandiers, ne le soutiennent plus. Et donc c'est pas, non seulement c'est pas les mêmes bases de soutien au sein de la société, mais en même temps, c'est pas non plus les mêmes forces politiques ou forces au pouvoir qui sont susceptibles de soutenir différents candidats. Alors, Rouhani a toujours une base importante, à ma connaissance, parmi les classes moyennes des villes, des grandes villes. Or, l'Iran est à 75% urbaine, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il a encore une forte chance de se faire élire, non pas à 70% des votes dès le premier tour, mais soit à plus que les autres, ou en tout cas avec une marge pas très importante, 51% ou quelque chose comme ça, comme en 2013, puisqu'il y a parmi les conservateurs, il y a de nombreux candidats également. Alors, c'est ça qui montre la dissension, en fait, au sein des conservateurs, qui peut servir Rouhani, dans la mesure où M. Raïssi est un candidat indépendant, alors même qu'il y a un front des conservateurs avec 5 candidats. Et ils vont dire, selon les sondages et le résultat des sondages, lequel de ces 5 candidats va être le candidat des conservateurs officiels, si vous voulez. Donc, il y a énormément de dissensions en leur sein, ce qui, bien évidemment, va pouvoir profiter à Rouhani.
Et Clément Terme, en un mot, vous êtes d'accord pour dire que Hassan Rouhani peut bénéficier des divisions dans le camp conservateur, essentiellement le 19 mai prochain ?
Oui, mais ce qui reste imprévisible, c'est la rencontre entre un système politique relativement fermé, donc qui n'est pas ouvert sur l'ensemble des forces politiques présentes dans la société iranienne, et une opinion publique. Donc ça dépendra surtout le résultat de la mobilisation. Si l'abstention est forte, à mon avis, cela desservira Rouhani. Et si la participation est très très forte, au contraire, Rouhani a toutes ses chances. Parce que ceux qui sont à la frontière, si vous voulez, c'est ceux qui rejettent la République islamique. Donc est-ce qu'ils vont voter Rouhani comme un moindre mal, comme un accommodement nécessaire, ou est-ce qu'ils vont choisir l'abstention ?
Rendez-vous le 19 mai, en tout cas, pour le savoir. J'en profite pour vous signaler qu'RFI sera en Iran pour vous faire vivre cette élection présidentielle, série d'émissions spéciale en direct de Téhéran. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Clément Terme, chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques, et Azadeh Kian, professeur de sciences politiques à l'université Paris 7 Diderot. Décryptage avec Éléonore Krenik à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Viollet. Restez avec nous à l'écoute des RFI.